Bonsoir, c'est Ondes Noires, l'émission polaire la plus rock de la bande FM.
Bonsoir chers auditeurs et bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne, bonsoir à tous.
Et bien ce début d'année, on va vous souhaiter une très bonne année, tous nos voeux pour une année agréable et sereine, avec plein de coups de cœur et dans la vie et dans vos lectures. On va vous parler des romans qui nous ont particulièrement intéressés dans les deux parties de cette émission, et je vais commencer par un roman qui se passe dans les années, à la fin des années 50 pour tout dire. Attention, non pas 1950, mais 2050.
De la SF dans Ondes Noires ?
Pas vraiment, vous allez le voir. C'est un roman de Benjamin Fogel, précisant d'ailleurs un premier roman. Intitulé, le titre du roman, c'est « La transparence selon Irina ». Ce roman est sorti il y a quelques mois, en 2019, chez Rivage. Dans ce futur proche, donc, le réseau avec un R majuscule, gouverne et protège les vies des citoyens. Grâce à une transparence, j'insiste parce que ce mot transparence est important, grâce à une transparence totale des données personnelles de chaque individu, plus de tracas. Puisque la vie de chacun, tous ses trajets, tout ce qu'il fait, est disponible pour autrui, la criminalité, le terrorisme ont disparu. La paix règne. Et le régulateur de vie installé chez chaque citoyen, permet des conditions de vie idéales.
Ah, mais c'est le rêve.
C'est le rêve. La lumière, la température sont régulées selon le confort optimum de chacun. Les repas sont proposés en fonction des goûts et de la santé de l'occupant de l'appartement. Bref, le paradis. En tout cas, c'est ce que pensent les Ryanaka. Alors les Ryanaka, il faut comprendre, c'est les Ryanakachés qui voient dans cette transparence un confort de vie absolu, voire le bonheur sur Terre. Bon, il y a un certain nombre d'habitants sur la Terre, et donc on est en France, un certain nombre de Français qui doutent. Par exemple, le personnage principal, enfin plutôt l'un des deux personnages principaux, c'est Camille Lavigne. Elle fait partie des nonymes. Vous l'aurez vite compris, c'est la contraction d'anonyme. Elle préfère quand même avoir un pseudo dans IRL, comprenez In Real Life, dans la vraie vie, pour être tranquille en gros par rapport à IVL, entendez In Virtual Life, dans le réseau. Et enfin, il y a ceux qui s'opposent à tout ça. Eux, c'est les obscuranettes, les extrémistes quoi, ceux qui refusent le réseau, qui s'arrachent leur puce implantée sous la peau à la naissance, et qui tentent de montrer au reste du monde que cette transparence, c'est juste une forme d'aliénation, voire une dictature qui se cache bien. Camille, revenons au personnage principal, elle peut être satisfaite, elle a un métadicateur, je continue à traduire, hein, normal, vous ne comprenez pas les termes de 2060, donc je traduis. Le métadicateur, donc, c'est une note qui évalue chaque citoyen, en fonction de chacun de ses parcours, de tout ce qu'il fait. C'est pratique pour classer les gens. Vous noterez que c'est pratique aussi pour les déclasser, d'ailleurs. Donc, Camille a une bonne évaluation. Pensez donc, elle est l'amie, la confidente d'Irina Lubovsky. Je rappelle le titre, La transparence selon Irina. Alors, je cite Benjamin Fogel, Irina Lubovsky, essayiste majeure de la décennie et personnalité emblématique de la vie intellectuelle du réseau. Donc, Camille dans la vraie vie, in real life, Irina, in virtual life, cachée derrière le réseau. Et Camille éprouve une passion pour Irina. Elle vit à l'aune de ses SMS et des mails de son mentor, qu'elle n'a jamais rencontré. Irina vit à Seattle. Voilà, en gros là, j'ai juste décrit une petite partie de l'univers qu'invente Benjamin Fogel dans ce roman. Je n'ai même pas commencé à raconter l'histoire, que je ne raconterai pas ou si peu. Camille, en gros, va être déstabilisée dans sa vie réelle, un ami flic qui se fait descendre, quelques petits problèmes, mais aussi dans sa vie virtuelle. Irina a d'un coup un comportement étrange, ce qui va pousser Camille à faire la connaissance du frère d'Irina, dans la vraie vie, qui s'appelle Lucas. L'ère du mensonge et des dissimulations est venue pour Camille, mais l'ère de l'amour aussi. Je cite Camille, « Lucas, est mon horizon physique, tandis que sa sœur, donc Irina, constitue mon socle psychique. Je n'en dirai pas plus, seulement que l'auteur instille une tension narrative qui s'intensifie au fur et à mesure du récit avec des rebondissements, des choses trappes et des twists rondement menés. Mais ce qui m'a le plus intéressé, ce sont les réflexions que ce récit suscite. C'est vrai dans beaucoup de romans de SF qui montrent un avenir très proche. Les thèmes qu'aborde avec beaucoup d'intelligence et de finesse Benjamin Fogel. Tout d'abord, cette interrogation sur les réseaux. Certes, c'est un roman d'anticipation, mais l'univers ici décrit est très proche du nôtre. Pas de catastrophe nucléaire, pas de petits bonshommes verts, pas de mutations génétiques spectaculaires. Ce réseau, voilà comment il nous est présenté. Internet était devenu une zone de non-droit où les conditions générales de Google, Amazon, Apple et autres sociétés privées jouaient le rôle de nouvelles déclarations des droits de l'homme. Bon, on y est hein, en fait. Ce roman ne fait que pointer les dangers et les perversions de ce que l'on vit tous les jours. Tout aussi intéressante, la réflexion sur la quête de l'identité à travers l'évolution du personnage de Camille, la même façon dont on se perçoit en étant le reflet des autres, le jugement à travers les yeux des autres, cette fameuse évaluation perpétuelle. Il n'est pas besoin de réseau informatique pour cela. Le regard des autres est omniprésent et nous construit ou peut aussi nous déconstruire. Comment peut-on exister sans les autres? En tout cas, nous dit Benjamin Fogel, pour aimer, il faut quelqu'un en face, quel que soit son genre. Ça, on le sait depuis longtemps. Camille, elle pense, elle dit, il faut un auditoire. Espérons que les GAFSA, Google, Amazon, Facebook...
Les GAFA, c'est en Tunisie.
Ah pardon, oui, les GAFA ne puissent changer cela. Mais méfions-nous, ils pourraient trouver un moyen de nous vendre le partenaire idéal. Encore une fois, on n'en est pas si loin. On en est même très très près. Donc je rappelle le titre, La transparence selon Irina, de Benjamin Fogel, aux éditions Rivage. Une petite pause musicale.
Oui, une petite pause musicale. Donc on va écouter une chanson country, un peu mexicana, parce que dans le roman dont on va parler après, on va aller non loin de la frontière du Mexique. Donc cette chanson s'appelle « South of the Border ».
South of the border, down Mexico way, that's where I fell in love when stars above came out to play. Now as I wander, my thoughts ever stray, south of the border, down Mexico way. She was a picture in old Spanish lace, and for a tender while I kissed a smile upon her face. For it was fiesta and we were so gay, south of the border, down Mexico way. Then she sighed as she whispered mañana, never dreaming that we were parting. But I lied as I whispered mañana, for our tomorrow never came. South of the border, I rode back one day. There in a veil of white, by candlelight, she knelt to pray. The mission bells told me that I mustn't stray, south of the border, down Mexico way.
On quitte les guitares, les trompettes de Asleep at the Wheel.
C'est assez rare qu'on passe du country dans cette émission quand même.
Ça arrive.
En tout cas, ça va très bien pour le roman dont nous allons vous parler maintenant. C'est un roman qui est à mi-chemin entre le polar et le western, ce qui n'étonnera pas l'amateur de l'un ou l'autre, puisque le genre noir est le digne héritier du genre western. Et l'écrivain de ce roman, je vais essayer de prononcer son nom comme il faut, c'est pas évident. Glendon, ça va, le prénom, tout va bien, mais le nom, excusez-moi hein, si je le déforme, Swarthout, emmêle savamment les fils des deux genres grâce à une intrigue maligne. Alors, le titre du roman, Jacques ?
Le titre du roman, c'est 11h14. En fait, c'est une réédition avec une traduction totalement révisée. Il était paru initialement en 1980. C'est un roman de 79. Le titre le premier titre, c'était Répercussion.
C'est assez bizarre sur la couverture d'un roman.
Voilà,
hein, mais
c'est
bon.
Un peu drôle. Mais c'est juste avec ce qui se passe dans le roman. La première traduction était de France-Marie Watkins. Et celle de 2020, enfin celui qui l'a révisée, réécrite, s'appelle Marc Boulet.
Donc,
et on n'a pas précisé, c'est aux éditions Gallmeister.
Voilà, aux éditions Gallmeister, dans la collection Totem.
En poche, donc.
Alors, je le disais, à mi-chemin entre le polar et le western, côté polar, on a un auteur de romans pour enfants, Jimmy. C'est un espèce de dandy new-yorkais, citadin jusqu'au bout des ongles, qui est envoyé par son ex, la très belle et très pulpeuse Tyler Vogt.
Comme on n'en voit que dans les romans.
Voilà, ou dans les films d'ailleurs. Donc, elle l'envoie, Tyler Vogt, ni plus ni moins, à la recherche de son compagnon actuel. Oui, il faut dire qu'en fait...
Celui qui l'a remplacé, voilà.
Voilà, puisque Jimmy était marié à Tyler, ils ont divorcé 3-4 mois, et Max l'a remplacé auprès de Tyler. Et donc Tyler, avec un... bon sens...
Un appoint,
voilà. L'envoie, ni plus ni moins, à la recherche de son compagnon actuel, Max, disparu lors d'un voyage au Nouveau-Mexique. Il faut dire que Tyler avait déjà envoyé Max au Nouveau-Mexique. Et si Jimmy réussit, sa belle lui reviendra, et l'espoir de se remarier avec elle va donner des ailes à notre brave héros. Donc, côté western, on a évidemment les paysages du Nouveau-Mexique, et puis la famille de Tyler. En particulier, on va repartir dans le passé, les deux grands-pères, deux figures locales. L'un étant célèbre pour avoir tué 3 hommes de sang-froid, l'autre pour avoir été le juge lors du procès qui acquitta ce meurtrier. Et si Jimmy débarque dans cet état à la fin des années 70, la sauvagerie du début du siècle et les codes qui régissaient les relations humaines de l'époque ne semblent pas trop avoir changé dans la petite ville de Harding où il débarque. Alors, je parlais de l'auteur, j'ai cité l'auteur, Swarthout, c'était un des spécialistes de l'Ouest américain. Il a commis pas mal de romans dans le genre western. Et là, on sent vraiment qu'il s'amuse. C'est plutôt l'impression qu'on a au début du livre. Imaginez le très élégant Jimmy, des costumes improbables, hauts en couleur, au volant de sa Rolls-Royce. Eh oui, une Rolls-Royce, Silver Wraith, deux portes de 1958, très important.
Un peu comme John Steed, quoi, dans le Nouveau-Mexique, ça fait un peu bizarre.
Oui. Sauf que John Steed n'a pas souvent été dans le Nouveau-Mexique.
Mais non, justement, c'est ça. Mais imaginez John Steed dans le Nouveau-Mexique, quoi. Bon, même s'il est américain, Jimmy.
Alors, Jimmy, qui débarque à Harding, donc un trou perdu du Nouveau-Mexique, ses habitudes citadines, et on peut le dire, sa couardise, oui, parce qu'il est assez peureux quand même. Hein, donc, quand il arrive dans ce trou perdu du Nouveau-Mexique...
C'est peureux et conscient de l'être.
Oui, tout à fait, c'est peut-être un avantage. Ce Harding ou les tough guys, les hommes, on va dire, un peu couillus, n'ont pas vraiment beaucoup évolué depuis l'époque où l'on portait les colts à la ceinture et où la justice était plus qu'expéditive. Et ce pauvre Jimmy qui part de New York pour enquêter, afin de combler les désirs d'une femme fatale, souvenez-vous, on vient de vous parler de Tyler, et qui se retrouve, au début, dans une bibliothèque, à discuter de ce roman avec une bibliothécaire on ne peut plus sérieuse. Oui, Swarthout s'amuse bien au début.
Ouais, il faut dire que l'auteur rend hommage à la lecture bibliothécaire.
Oui, il y en a
plusieurs bibliothécaires. Celle-là, elle est vraiment super, on aimerait tous avoir des bibliothécaires comme ça. Et il faut dire, on n'a pas tout à fait parlé, il écrit des romans pour la jeunesse dont le héros est une mouche.
Oui, c'est très intéressant, très jolie idée ça.
Voilà, une mouche
qui prend l'avion.
Qui prend l'avion et donc qui voit, évidemment sans payer, et ça lui permet de voyager.
Alors justement, Jimmy voyage, qu'il n'a pas beaucoup fait dans sa vie jusqu'à présent apparemment. Et puis, au fur et à mesure que Jimmy enquête sur la famille de Tyler, parce qu'en fait, c'est pour ça que Max... et même un autre auparavant, vous allez le découvrir, et Jimmy maintenant, c'est pour enquêter sur la famille de Tyler. Donc, au fur et à mesure qu'il déterre des cadavres, au propre comme au figuré, les sombres histoires du passé, on va glisser doucement vers un roman noir plus subtil que le ton léger du début ne laissait présager. L'écrivain américain joue avec les codes des deux genres, pousse parfois jusqu'à la caricature, mais il reprend pied immédiatement. Et souvent, il nous coupe le souffle avec une histoire bien glauque. On découvre, entre autres, la mère démente de Tyler. Et puis, une histoire assez impressionnante. C'est l'exécution de 4 vilistas. Après leur acquittement, le juge était déjà celui de tout à l'heure. Et puis après, une chasse à l'homme. Tu nous racontes un peu cette histoire, Jacques ?
Oui, alors bon, les vilistas, ce sont des membres de l'armée de Pancho Villa. Donc, au début du... dans les années 1900. Alors évidemment, de ce côté de la frontière, donc de la côté américaine, donc ce sont des terroristes. C'est pas une armée, ils viennent envahir, ils viennent faire des incursions parfois très violentes. Dans le roman, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un groupe armé de l'armée de Pancho Villa a fait une incursion dans la ville, ils ont fait quelques exactions, et l'armée, les shérifs les poursuivent, et ils n'arrivent à attraper que 4 pauvres péons qui gardaient les ânes et les chevaux de cette armée sans trop comprendre ce qui leur arrive. Ils seront jugés, comme tu l'as dit, acquittés, puis, disons, exécutés à la mode texane, vous verrez.
Ou du Nouveau-Mexique, puisqu'on est au Nouveau-Mexique.
Voilà, mais bon, c'est à la mode texane, à un moment, ils le disent.
Ouais.
Alors, en fait, je pense que le sujet de Pancho Villa et de ses vilistas intéresse beaucoup Glendon Swarthout, car il a écrit aussi un roman sur la répression de l'armée de Pancho Villa, ordonnée par le président Wilson, donc vers 1900 et quelques. Le roman s'appelle « Ceux de Cordura ». Il est paru en 59 à la NRF de Gallimard, dans la collection Blanche. Vous pouvez peut-être le trouver dans un vide-grenier ou une bibliothèque.
Oui, parce que là, il est complètement épuisé.
Il n'a jamais été réédité, oui. Et il y a même eu quelques années après un film de Robert Rosen, avec Gary Cooper.
Alors, Robert Rosen, pas le nôtre, pas notre français,
non, pas
Rosen, hein,
non,
Robert
Rosen. R-O-2-S-E-N, avec Gary Cooper. Le film porte le même nom, donc « Ceux de Cordura ». Dans ce film, il y a aussi Dick York. Alors, Dick York, vous savez qui c'est ? Est-ce que tu sais qui c'est que Dick York ?
Mais bien sûr, c'est... Je pourrais pas fredonner la musique, mais c'est le mari de ma sorcière bien-aimée.
Voilà. Et donc, ce film a été récemment réédité en Blu-ray, ce qui fait que vous avez des chances de pouvoir le trouver plus facilement.
Bon, ceci dit, il y a peut-être des auditeurs qui ont un peu moins que notre âge. Ma sorcière bien-aimée, ça a été un feuilleton. À l'époque, on ne disait pas série, on disait feuilleton dans les années 70. Feuilleton qui durait à peu près une demi-heure où il y avait une gentille américaine qui était en fait une sorcière.
Voilà. Et Dick York jouait son mari. Et d'ailleurs, en fait, il s'est arrêté à la saison 4 parce que dans ce film, ceux de Cordura, il a été blessé et donc il n'a plus pu continuer à faire le mari.
Mais tu es plein de
blagues.
Revenons à 11h14. Jimmy, oui. Revenons à 11h14 et Jimmy. Donc Jimmy va passer de sale quart d'heure, s'en prendre plein la tronche, râper soigneusement tous ses beaux costumes colorés, mais, je cite, le Sam Spade du Sud-Ouest n'a peur de rien. Enfin, ça, c'est pas tout à fait vrai. Il ira donc jusqu'au bout d'une aventure rythmée qui ne s'essouffle jamais de rebondissement en rebondissement.
Et même la Rolls-Royce subira quelques muscles.
Ah oui, oui, ça c'est sûr.
On dit rebondissement, humour, comme ça, mais en fait, ce roman raconte beaucoup sur l'Amérique et, comme le dit souvent Benjamin Whitmer, sur la violence qui a toujours été à sa construction et qui est encore maintenant.
Qui a présidé même à la construction et à l'édification des États-Unis. On se retrouve dans quelques instants.
Après les infos.